peu à la bourre pour le podcast. J'espère que ça va le faire, mais on a pas mal de boulot.
Bah moi franchement c'est chaud là cette semaine, j'ai trop de trucs à faire, je me sens débordée, je sais pas comment faire.
Bah t'es pas au chômage pourtant.
Si mais ça va, genre j'ai l'impression vraiment depuis que je suis au chômage, je bosse plus que quand j'avais un CDI. Genre entre les candidatures, il y a France Travail avec qui j'ai des appels, je dois faire un stage d'immersion pour apprendre un métier. Et en vrai tout ce qu'on fait avec la radio, je sais pas, là j'ai zéro temps pour moi.
Bah en vrai, moi c'est un peu ça aussi parce que tu vois j'ai quelques missions salariés ponctuels ou genre écrire un article ou quoi, mais la plupart du temps je suis pas en emploi, enfin j'ai pas un travail fixe et en plus je gagne pas vraiment ma vie, genre c'est plutôt les aides sociales qui me permettent de subvenir à mes besoins et pourtant j'ai l'impression d'être tout le temps en train de taffer. Les nouveaux sauvages ça prend beaucoup de temps, les candidatures comme toi ça prend beaucoup de temps, en plus j'ai repris des études cette année donc du coup j'ai aussi le temps de cours et j'ai l'impression d'être débordée alors qu'en fait aux yeux de l'État, je suis en train de ne pas travailler.
J'ai l'impression, aujourd'hui, il y a plein de gens qui n'ont pas de travail fixe, comme nous, là, et pourtant, on bosse tout le temps, on a un peu... Ok, on n'a pas de travail fixe, on a un peu, du coup, une certaine liberté, mais à côté, en fait, ça empiète partout, quoi. Mmh. Pas trop de temps libre.
Et en même temps, on a quand même la chance, enfin, on bosse sur des tâches, genre, on ne gagne pas beaucoup d'argent, mais on fait des tafs qu'on aime bien, enfin... Et en même temps, c'est pas vraiment... Est-ce que c'est des tafs si on ne gagne pas trop d'argent avec?
Ah, et pour se faire exploiter, ou...
Est-ce que genre le travail c'est un truc par exemple qui t'aliène ou c'est quelque chose qui te libère?
Ça peut être un lien social aussi, ça peut être plein de choses.
Et puis on travaille pourquoi?
On s'est rendu compte qu'on avait du mal à définir le travail. Alors on a posé la question aux gens autour de nous.
Pour moi le travail c'est le gage de mon autonomie et de mon indépendance en fait.
Pour moi le travail c'est une utilisation vertueuse de son temps.
Je comprends qu'on puisse le voir parfois comme une aliénation, mais je le vois aussi comme un outil d'émancipation.
Pour moi, le travail, ça peut être une passion ou, comme c'est le plus souvent le cas aujourd'hui, une marchandise.
Mon travail jusqu'à présent a principalement consisté en du travail bénévole, puisque je n'ai jamais rien fait de rémunérateur qui m'a permis de me sentir libre et épanoui.
Pour moi, le travail, c'est s'amuser.
Pour moi, le travail, c'est un devoir que la société nous impose pour vivre. Souvent, c'est un travail rempli de tâches répétitive.
Dans l'idéal, j'aimerais bien que cette activité soit quelque chose que j'aime faire. Pour l'instant, je gagne pas encore ma vie avec ce type de travail-là. Du coup, j'ai deux travails. Celui que j'aime, qui est souvent bénévole, et celui que j'aime moins, mais qui me fait gagner des sous.
Mais souvent, c'est un revenu qui est pas assez élevé pour vivre décemment dans cette même société.
J'ai grave conscience que c'est une position hyper privilégiée de pouvoir choisir un taf qui ait du sens. De pouvoir déjà tout court choisir un taf.
Le travail, pour moi, c'est devenu un gagne-pain qui fait que j'ai même plus le temps ni l'envie de vouloir me poser à réfléchir philosophiquement à ce que représente pour moi le travail.
Silouane a même confié son enregistreur à sa sœur, serveuse dans un bar de jour à côté de Valence, en Ardèche.
Là, ça fait une lumière.
Ça veut dire que ça enregistre.
Donc là, c'est en train d'enregistrer.
Là, c'est en train d'enregistrer.
Vas-y, parle.
Salut, moi c'est Silouane. Et là, tu vois, tes mains, elles sont mal placées.
Pourquoi?
Parce qu'elles sont trop proches du micro ici. Du coup, faut que tu tiennes vraiment...
En bas
plutôt. Et tu bouges pas tes mains quand la personne elle parle. Et voilà. Là, c'est bon.
Les nouveaux sauveurs.
Les nouveaux sauvages.
Les nouveaux sauvages.
Un jeudi tous les deux mois à 20h sur le 93.9 FM.
Donc, je me présente, je suis boucher de métier, j'ai 58 ans, voilà. Et après j'ai commencé ma vie, j'ai commencé à travailler à 13-14 ans dans les champs en tant que pépiniériste quand j'étais jeune pendant les vacances. Et après, j'ai commencé pré-apprenti à 15 ans en boucherie, charcuterie. Donc, j'ai passé mon CAP, mon BEP. Ensuite, je suis parti à Saint-Tropez travailler, Cavalaire et Saint-Tropez. Et après, j'ai repris une boucherie dans mon propre village où j'avais appris le travail chez mon patron pendant 18 ans. J'étais à mon compte pendant 18 ans dans mon village. Et maintenant, je suis revenu ouvrier. Ça fait 7 ans que je suis à Montméran et je suis ouvrier. Et voilà. Jusqu'à peut-être 70 ans, je travaillerai encore. parce que j'aime travailler. Voilà. Surtout le contact avec la clientèle. Mmh. Voilà, c'est important.
Donc la retraite, ça te fait peur?
Je n'en ai pas envie. Tant que je pourrais bouger, je bougerai. Ah non, c'est vrai que moi la retraite, j'y pense même pas. Tant que je pourrais travailler, je crois que je travaillerai. C'est surtout le contact avec la clientèle. Ouais.
Je m'appelle Nicolas, je suis plombier de métier.
C'est quoi un peu ton rapport au travail? Pourquoi tu te lèves le matin?
Moi, je me lève le matin pour subvenir à mes besoins déjà. Mm-hmm. Ça, c'est quand même le primordial. J'ai commencé, j'avais 16 ans.
Ok, et tu es plombier à ton compte?
Alors, là, en ce moment, je suis plombier à mon compte, mais je suis aussi rentré plombier dans un hôpital psychiatrique. Donc, pour avoir une sécurité un peu d'emploi, une sécurité sociale aussi.
Et quand tu travailles, c'est que pour subvenir à tes besoins ou tu travailles à côté pour toi? Tu vois, qu'est-ce que tu définirais comme travail?
Le travail, si, en fait, franchement, le travail, si je pouvais ne pas en avoir et gagner ma vie sans travailler, j'ai plein d'idées. Moi, j'aime les bateaux, donc je m'achète un voilier, je pars.
Et si, par exemple, tu n'avais pas besoin de gagner d'argent, tu considérerais que bosser sur ton bateau et tout, ce ne serait pas du travail?
Mais bien sûr, c'est toujours du travail. De toute façon, en fait, le travail, le mot travail, c'est faire. Si ton temps n'est pas rémunéré, tu peux être oisif, tu profites de ce temps. Tu n'as pas besoin d'argent, tu n'as pas besoin d'argent. Si on te nourrit, on te loge, on te blanchit, tu n'as pas besoin de travailler. Après, tu vas, on appelle ça bricoler. Mais oui, le travail, c'est...
Ah ouais, c'est pour le pognon, sinon on serait déjà à la retraite, en vacances. Terminé.
Et toi, la retraite
On sera mouru avant, voilà. C'est fait aussi.
Quel optimisme.
Sonia se lève précipitamment pour calmer les pleurs de son plus jeune fils. C'est dans le travail en ce moment. Elle le cajole, le nourrit, le change, lui parle... C'est doux malgré le manque de sommeil et l'effort qu'il faut pour le surmonter. Tout en repensant à son rêve, qui la travaille encore, elle prépare le petit déjeuner. Puis elle réveille son mari, qui doit aller travailler et déposer le plus jeune à la crèche. Elle aide son autre fils à s'habiller et à faire son cartable. Elle le conduit à l'école et lui dit de bien travailler. De retour au domicile, elle passe l'aspirateur, change les draps, lance une lessive, range la cuisine, ramasse les jouets. Vivement qu'elle puisse retravailler pour avoir les moyens d'employer quelqu'un. Elle se rend ensuite à Pôle emploi pour montrer qu'elle cherche bien du travail. Son interlocutrice lui rappelle qu'elle doit écrire, relancer, téléphoner, tenir ses pages internet à jour, faire du réseau et se former. Elle lui suggère de rester motivée et en forme. Sur le chemin du retour, elle fait les courses dans un supermarché. Elle peste en constatant qu'il faut utiliser une caisse prétendument automatique. C'est à elle de faire le boulot, pense-t-elle. En rentrant, elle se met à son cours d'informatique en vue de valider un diplôme. Elle y travaille avec assiduité. Elle s'interrompt pour répondre à une voisine qui lui demande de l'aide pour monter son caddie, puis elle décide de poster sur Wikipédia un article qu'elle a mis 3 mois à rédiger sur le roman noir, sa passion. Elle a fait du bon travail, pense-t-elle avec fierté. Il est temps de rejoindre le local de l'association dans lequel elle donne bénévolement des cours de français. Retour à la maison via la crèche et l'école avec les 2 enfants. Il n'y a plus qu'à leur faire faire leurs devoirs à la maison, puis trier et descendre les ordures, étendre le linge, appeler ses parents, préparer le dîner et, enfin, écouter son mari qui, de retour du travail, va lui raconter sa journée. Car son mari travaille, lui. Il n'est pas obligé de rougir lorsque des amis lui demandent: et toi, tu fais quoi dans la vie? Et pourtant, ce soir, il lui dit, tout en consultant ses courriels professionnels, « J'ai passé ma journée dans des réunions absurdes. Je n'ai pas eu le temps de travailler. »
C'est par cette fiction réaliste que s'ouvre « Trouble dans le travail », paru aux éditions PUF. Son autrice, Marianne Dujarrier, est sociologue. Elle a étudié la notion de travail, ses sens et ses impasses. on a décidé de la contacter en se disant qu'elle, au moins, pourrait nous expliquer ce que c'est, le travail.
À cette question, la réponse est « on ne peut pas répondre à ça ».
Bon, on n'avait pas prévu ça.
Donc, on peut parler de travail psychique, de travail bénévole, de travail salarié, du travail des animaux. On parle, voilà, le mot « travail » a un sens très extensif pour parler des activités humaines. Salarié ou non, mais même non humaine. C'est une bizarrerie capitaliste. C'est-à-dire que seuls les pays capitalistes ont mis sous un seul mot autant de significations. Ce qui est intéressant d'un point de vue sociologique, c'est à la question qu'est-ce que le travail, c'est non pas de répondre à cette question-là, mais de dire quels sont les usages sociaux qu'on fait de ce mot-là. En fait, les mots que nous employons sont forgés par l'expérience que nous avons de la vie dans une société donnée, qui fait d'ailleurs que les mots sont... Le vocabulaire n'est pas le même selon les climats, selon les moments historiques. Voilà. Ce sont des mots construits qui ensuite s'imposent à nous comme s'ils étaient naturels. Alors voilà, moi je prends souvent cet exemple-là que Bourdieu aussi a pris. Si je vous dis « dessinez-moi une famille », vous voyez bien que le dessin d'abord peut être différent selon qui le dessine et puis surtout il sera sans doute très différent au XIIe siècle, au XVIe siècle, au XXe siècle et aujourd'hui.
Justement, revenons un instant sur l'histoire du mot « travail ». Aujourd'hui, le terme nous paraît évident, mais pourtant, il est le résultat d'une très longue évolution. Dans l'Antiquité, ce qu'on appelle le travail n'existe pas en tant que catégorie. Les activités qui sont pénibles sont réalisées par les esclaves ou par les groupes dominés. Et les citoyens libres, eux, ne travaillent pas. Ils participent à la vie publique, à la guerre, à la religion. Il faut attendre le Moyen-Âge pour voir apparaître en français le mot « travail ». Et à ce moment-là, il ne désigne pas un métier. Il se réfère aux activités qui demandent de l'effort, de la peine, qui nous coûtent. On parle du travail d'un accouchement, de la fatigue d'une tâche ou de la résistance qu'on affronte. Travailler, c'est lutter contre ou pour quelque chose. À partir du XVIe siècle, avec le développement des villes et des échanges, le mot évolue encore. Il peut désigner l'ouvrage réalisé, la manière dont il est fait ou son utilité. Par exemple, on peut faire du beau travail, et on se met à dire que des choses non humaines travaillent, comme la mer, le bois ou la matière. Mais la rupture principale arrive au XVIIIe et au XIXe siècle, avec le capitalisme marchand et la révolution industrielle. Pour la première fois, travailler, ça veut dire être employé, vendre son temps et son énergie contre un salaire. Le salariat devient la forme dominante, et le mot travail s'y accroche progressivement. Et au XXe siècle, cette conception s'institutionnalise. Le mot envahit le droit, les statistiques, les politiques publiques.
Notre société est fondée sur une institution qui s'appelle le salariat. On est dans une société capitaliste néolibérale salariale. Les trois termes sont importants. Vous voyez bien le salariat, c'est-à-dire l'obligation sociale qui nous est faite d'aller vendre notre force de travail sur un marché, organise vraiment notre vie, j'allais dire, de la naissance à la mort, et crée même des identités. Quand on va à des funérailles, souvent, on entend parler de ce que cette personne était dans le domaine du travail. C'était un ingénieur, c'était un ouvrier. Bon. Voilà, donc on est vraiment dans une société qui, outre le fait que le travail est très polysémique, dans une société qui a mis en son cœur la question du salariat qui nous occupe et nous préoccupe en permanence, puisque c'est un marché sur lequel il faut trouver sa place, dans une division des tâches et des spécialisations qui est de plus en plus poussée. Aujourd'hui, on ne produit vraiment plus rien de ce qu'on consomme et on ne consomme plus rien de ce qu'on produit. Nous sommes chacun à faire une petite tâche spécialisée. Moi, je fais de la sociologie, vous du journalisme. Pendant qu'on fait ça, on n'est pas en train de produire notre nourriture, notre maison, notre santé, notre éducation, etc. Nos transports, notre chauffage. Donc, on compte sur les autres pour le faire. Nous sommes donc extrêmement dépendants des autres producteurs qui eux-mêmes sont spécialisés sur des tâches. C'est l'obligation de ce salarié. Une spécificité de la France concernant le salariat, c'est le fait qu'après la Seconde Guerre mondiale, quand a été créée la Sécurité sociale, celle-ci a été adossée au salariat. C'est-à-dire que les cotisations sont faites par les employeurs et les employés et bénéficient donc aux employés en cas d'accident, de maladie, de vieillesse, etc. Et également pour le chômage un peu plus tard. Alors, ce dispositif de solidarité qu'est la sécurité sociale s'appuie sur le salariat, qui fait que, alors que le salariat a été défini en 1910 dans le premier code du travail, après une longue lutte entre juristes, ils ont décidé de dire ce qui définit le salariat, c'est le rapport de subordination. À partir de 1945, ce rapport de subordination qui reste est aussi un rapport qui protège. Et donc, ce qui est caractéristique de la France, c'est que chez nous, le salariat est une subordination qui protège, ou une protection qui subordonne. Prenez-le dans le sens que vous voulez. Voilà. Ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, des pays du Nord, dans lesquels la solidarité passe davantage par l'impôt et par l'État que par ce système d'assurance paritaire spécifique à la France.
L'assimilation du travail et de l'emploi a des conséquences institutionnelles fortes. Nos droits dits du travail, salaire, arrêt maladie, dépendent de l'emploi et excluent donc tout un pan d'activité qui s'exerce hors de ce cadre.
Jusqu'à la fin des années 80, il y avait une sorte d'accord social sur le fait que travailler, c'est faire, c'est se donner la peine de produire des choses utiles socialement et de le faire dans le cadre d'un emploi qui permet de vivre, qui excluait d'ailleurs, par exemple, toutes les tâches domestiques. Hein, donc, d'ailleurs, c'est ce qu'ont fait remarquer les féministes des années 70, hein, disant « Oui, mais nous, ce qu'on fait, ça a aussi une valeur économique, c'est aussi un effort pour faire quelque chose, et c'est bigrement utile. Voilà. » Donc, à partir des années 80, on va voir de plus en plus de pratiques réelles, de pratiques sociales, qui viennent questionner ce périmètre bien dessiné qui préexistait depuis les années 50 dans l'usage du mot « travail ». Alors évidemment, les féministes ont été les premières, je dirais, à ouvrir la brèche de ce doute sur le périmètre de ce qu'on appelle « travail ». Et puis, derrière elles, en même temps, beaucoup d'autres pratiques sociales ont questionné ce périmètre du travail. Alors, on pourra en faire une liste, elle est assez longue. Par exemple, on peut se poser la question de savoir si quand on enrichit des actionnaires de la Silicon Valley en mettant des photos de ses enfants sur des réseaux sociaux ou en likant, est-ce que nous travaillons? Ça, c'est un débat qui a eu lieu entre sociologues et peut-être plus largement au-delà, de savoir si on peut parler de travail, sachant que les gens vous disent « mais moi, j'ai pas le sentiment de travailler, je suis ravie de mettre des photos de mes enfants sur les réseaux sociaux ». Oui, mais ça enrichit le capitaliste, donc, du point de vue de la théorie marxienne, oui, ce serait du travail. Bon, trouble. C'est-à-dire, on ne sait plus si on travaille ou pas. On peut se poser évidemment la question pour tous ceux et celles qui sont engagés dans des tâches bénévoles et qui, par définition, le font sans être rémunérés. On peut se demander également, si, évidemment, les tâches domestiques, mais plus largement de care, de prendre soin de soi et d'autrui, et du monde. On peut continuer cette liste-là en ajoutant le travail animal, le travail des plantes, le fameux travail des robots. Il paraît que l'IA va nous piquer notre travail, donc l'IA va travailler. Voilà, donc on voit qu'il y a beaucoup de situations très concrètes, réelles, qui viennent questionner le périmètre de ce que nous appelons travail dans les institutions. Beaucoup d'entre nous avons proposé des formules comme ça, le travail du consommateur, le travail du militant, le travail politique, le travail bénévole, évidemment, etc. D'une certaine manière, ça a fait un peu progresser, ça a questionné donc, la frontière du travail, mais on ne peut pas dire que ça ait fabriqué une transformation institutionnelle au point où désormais, les femmes qui font la vaisselle sont enfin reconnues comme travailleuses dans le droit du travail. Pas du tout. Pas plus que sur les questions de la formation ou du travail de deuil ou ce genre de choses. Donc il y a beaucoup de victoires sémantiques dans cette affaire, mais très peu de victoires institutionnelles. Or, c'est ça qui compte. C'est-à-dire que tant que nos institutions n'intègrent pas l'idée que, effectivement, préparer tous les jours le dîner pour les enfants et le mari, c'est une tâche qui demande des efforts, de la peine et qui a une valeur économique, tant que ça n'est pas institutionnalisé, on va se dire que on a eu une victoire sémantique et que ça.
Une question qui se pose d'autant plus pour les familles monoparentales qui sont à 80% portées par des femmes.
Voilà, je voulais vous parler du travail, de ce que c'est d'être une maman solo. Bah, c'est très difficile. Je le souhaite à personne. Restez bien mariée, restez bien en couple, je vous le dis. Okay. Voilà, parce que sinon vous êtes mariés à la CAF, et la CAF c'est un autre délire de mariage. C'est vraiment le mariage forcé, le mariage sans amour.
Si on se met à rêver un peu, puisque vous m'y invitez, on peut, je dirais, questionner les institutions du travail à deux endroits. Le premier, c'est le périmètre, qui serait de dire, on peut faire rentrer un certain nombre de pratiques sociales dans le droit du travail, de sorte que les gens qui sont en train d'exercer cette pratique sociale, bénéficient de toutes les garanties qu'offre ce droit du travail en termes de temps maximum, en termes de rémunération minimum, de protection en cas d'accident ou de maladie professionnelle, de possibilité de se syndiquer, de possibilité d'avoir des formations rémunérées. On pourrait aussi imaginer, rêvons, que de ce périmètre du travail, nous exfiltrions toutes les pratiques sociales qui ne contribuent pas à assurer la subsistance soit des salariés, soit de la société. Alors là, ça va faire du monde, parce qu'en réalité, le rapport de subordination en mode capitaliste oriente quand même l'action quotidienne des salariés vers des finalités qui ne sont pas d'abord l'utilité sociale de ce qui est fabriqué. Comme le dit le mot capitalisme très très clairement, l'ambition, c'est d'accroître infiniment la valeur du capital. Alors si on arrête de considérer que quelqu'un qui détruit la planète ne travaille plus, vous voyez l'enjeu, il faudrait exfiltrer en effet, il faudrait sortir du champ du travail toutes les activités écocides et de faire rentrer à l'inverse des tâches que l'on juge utiles à la subsistance et qui demandent des efforts et qui éventuellement créent du profit. On inclurait évidemment les tâches domestiques, mais aussi les tâches réalisées par les animaux, lorsqu'ils tirent des charrues, lorsqu'ils guident des aveugles, lorsqu'ils ou elles pondent des œufs. Ça demande des sacrés efforts, en fait, même plus que ça. Ça produit une valeur d'usage, de la viande, du lait, des œufs, etc. Et ça crée des profits aux entreprises. Pourquoi on n'appelle pas ça travail ? Vous voyez, ça coche toutes les cases de ce qu'on appelait jusque-là le mot travail. Alors, s'il fallait inclure le travail animal dans le code du travail, vous voyez à quel point cette proposition, dite sur une voix douce, est en fait extrêmement radicale, parce que ça change quand même beaucoup de choses. Alors vous voyez, on pourrait imaginer que dans cette logique-là, l'employeur d'animaux, de forêts, mais aussi de robots et d'IA, ait des responsabilités dans l'emploi qu'ils font. Plutôt que de donner des droits aux vaches ou à des robots, de créer des responsabilités juridiques pour ceux qui les emploient. Je rêve à voix haute, on en est évidemment très loin. On peut aller plus loin et se dire, et si on transformait les institutions dites du travail ? Je vous rappelle, les institutions dites du travail en France, comme dans beaucoup de pays européens, ce sont en réalité des institutions du salariat. On pourrait même les appeler les institutions de la subordination. Le code du travail, c'est un code de la subordination. Les politiques publiques dites du travail, ce sont des politiques publiques de la subordination. Et de ces adoucissements, si je puis dire, par des rapports de force. Est-ce qu'il faut continuer à maintenir une institution qui, officiellement, bien que nous soyons officiellement en démocratie, subordonne les êtres humains 8 ou 10 heures par jour, et ça pendant 42 ans au moins ? Voilà, ça c'est des vraies questions que je ne suis pas la première à poser, mais qui sont intéressantes.
Penser autrement l'organisation du travail, ça ouvre d'autres questions. Pas seulement comment on produit, mais aussi pourquoi on le fait, et au nom de quoi. C'est là que revient une expression qu'on entend partout, la valeur travail.
Quand on me dit « il faut travailler, c'est une valeur », je dis bah, « moi je veux bien, mais c'est au nom de quelle valeur ? Du sens, de la santé, de ma rémunération, du profit ?» Voilà. Le fait de ne pas préciser de quelle valeur au singulier il est question, permet toutes les interprétations et tous les faux accords. Parce que tout le monde en fait trouve de la valeur au travail. Forcément. Bah oui, c'est utile, ça me fait rencontrer des gens, ça me fait lever le matin, ça, je gagne ma vie. Donc oui, il y a des valeurs, incontestablement, mais ces valeurs, en réalité, sont en conflit. Donc parler de la valeur travail, c'est une manière de faire à croire qu'il n'y a pas de tension entre, justement, toutes ces valeurs très nombreuses que recoupe le mot travail avec ses grands bras polysémiques. Quand on parle de la valeur travail, on peut avoir l'usage de cette moraline pour amener des gens à ne pas se poser de questions lorsqu'ils sont salariés pour faire n'importe quoi. Voilà, je travaille, c'est bien en soi, c'est valorisé, c'est moralement correct, même si ce que je fais contribue à des choses que je jugerais éventuellement immorales. Voilà, donc le terme de la valeur morale, la valeur travail permet de faire à peu près n'importe quoi à n'importe qui, de la même manière qu'elle permet aussi, au nom de l'utilité sociale, de faire des choses très utiles sans les rémunérer, beaucoup ou même pas du tout. On a comme ça les métiers que les gens jugent les plus utiles sont les moins bien rémunérés, voire pas rémunérés du tout. Et inversement, les métiers jugés moins utiles socialement sont bien plus rémunérés. Les métiers les mieux payés sont plutôt dans le champ du conseil, de la finance, de ce que j'appelle les planeurs, hein, les gens qui, dans les entreprises, pensent les choses de vue de haut avec des chiffres.
Ne pensez pas une seule seconde que si demain vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est faite. Non, parce que vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien.
Donc on a comme ça une décorrélation entre l'utilité sociale et la rémunération. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? C'est que beaucoup d'entre nous sommes prêts à accepter d'être payés de sens, de faire des choses qui ont du sens. L'activité peut faire sens ou pas. Ce que l'on produit fait sens ou pas, et la rémunération fait sens ou pas. Mais tout ça n'est pas forcément aligné. Donc on entend des gens qui disent « moi je fais des choses qui sont complètement inutiles avec une activité qui me bousille la santé, mais je ramène un salaire à la fin du mois ». Ou d'autres qui vous disent « ce que je fais est passionnant, c'est super utile, mais je suis mal payé ».
Au chômage, mon père a pu se consacrer à sa vraie passion, le foot.
Allez, on sort tous là.
Voilà les Benjamins du Bouzol Football Club. C'est mon père qui les entraîne. Et ils viennent de perdre leur 5e match d'affilée.
C'est pas la peine de faire la gueule, hein. Vous êtes bien battus. Moi, je suis fier de vous.
Dans cet extrait des Tuches, on peut se demander si le célèbre Jeff Tuche est plus utile à la société en étant contrôleur de billes, ou chômeur, mais entraîneur d'une équipe de foot junior. En fait, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir repolitiser la notion de travail et celle d'utilité sociale. Qu'on puisse questionner ce qu'on veut mettre derrière ces notions et pour quelle finalité. Il n'y a pas de réponse toute faite à ces questions, mais on devrait pouvoir en débattre collectivement.
Dans une perspective écologique, qui me semble être celle qu'il faut adopter aujourd'hui, si on veut changer de régime et passer à un régime écologique, social et démocratique, se pose quand même la question de la coordination. C'est-à-dire que on ne peut pas retourner en arrière, on ne peut pas revenir à l'autoproduction. D'ailleurs, je crois que personne n'en a envie. De ne manger que du pain tous les jours ou d'être chauffé avec un petit feu de bois quand il y a du bois. Bon, évidemment, ce n'est pas une perspective réjouissante. Par ailleurs, elle est impossible parce que nous sommes dépositaires de systèmes techniques et de production qui ont été fondés sur une très forte spécialisation des compétences et des tâches et qu'on ne peut pas d'abord fermer comme ça. Je veux dire, par exemple, si on dit on va fermer des centrales nucléaires, ça demande quand même beaucoup de compétences pour arriver à faire ça. Et par ailleurs, il y a peut-être des productions qui sont tout à fait qu'on veut continuer à entretenir, par exemple des réseaux d'eau, qui demandent là aussi des compétences et donc de la coordination. Alors la question, c'est comment on se coordonne? Est-ce qu'on est obligé de passer par une instance supérieure qui subordonne chacun à cette coordination ou à cette division des tâches, si vous voulez, ou est-ce qu'on irait vers des coordinations plus horizontales, plus coopératives, hein. C'est-à-dire, je ne crois pas que ce soit en culpabilisant les individus ou en faisant l'apologie des bifurqueurs solitaires que nous allons significativement aborder ces questions-là. Elles sont, à mon avis, institutionnelles et elles touchent à la question de la production. Que veut-on produire et comment veut-on le produire? Voilà, à mon avis, les questions à se poser avant même de parler du mot travail. Quelle solidarité veut-on avoir entre nous, selon les générations, selon les personnes plus ou moins, entre guillemets, valides? Donc, si vous voulez, pensez la production, pensez la solidarité, pensez une activité qui fasse sens et qui permette aux sujets de construire leur santé. Tout cela, on voit, ce sont des changements institutionnels majeurs qui passeraient par des changements aussi des politiques publiques et du droit du travail. Mais vous voyez, jusque-là, je n'ai même pas parlé de travail. On peut se passer de ce mot qui est à la fois très important parce qu'il a été un drapeau de toutes les luttes et de tous les de luttes très importantes pour améliorer les conditions d'emploi, en vrai. Et en même temps, dont on voit aujourd'hui les limites, au moment de tout repenser, justement, des institutions face à la question écologique, sociale et psychique qui nous occupe, qui nous préoccupe aujourd'hui.
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop
notre métro ou vélo. Vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas le vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds, mais faut reprendre le boulot. Allez, tous ensemble là. Le travail, c'est la santé. Après le travail, faut être fou. Moi, le travail me court après. Il n'est pas prêt de me rattraper. Le travail, c'est la santé. Tu parles, rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers des boulots font pas de vieux os. Maintenant, dans le plus petit village, les gens travaillent comme des sauvages, je les ai vus, pour se payer tout le confort. Quand ils ont tout bas, ils sont morts.
C'était Le travail, c'est la santé d'Henri Salvador, sorti en 1965. Vous écoutez toujours Les Nouveaux Sauvages, l'émission qui prend au sérieux les idées folles. Un jeudi tous les deux mois sur Radio Campus Paris.
Bon bah, c'était excellent ce qu'elle nous a dit du Jarien. Je trouve ça ouvre plein de perspectives.
Grave, elle a mis des mots sur des questionnements que j'avais mais que j'arrivais pas à formuler. Et même me se rendre compte que le travail c'est une notion construite, mais que du coup elle est mouvante, et bah ça permet d'imaginer que ça pourrait être totalement autre chose et qu'on pourrait faire rentrer et sortir des activités du travail, quoi, de ce qu'on considère comme étant du travail ou pas.
De ouf. Moi, ce qui m'a le plus marqué dans ce qu'elle disait, c'était de me rendre compte que toute la protection sociale qu'on a aujourd'hui, tous les droits qu'on a, c'est complètement adossé à l'emploi. Et du coup, que ça exclut complètement en fait, plein d'activités qui sont privées de ces droits-là.
Mmh. Ouais, par exemple, les bénévoles d'assaut, ils sont hyper utiles pour la société, voire plus que certains salariés. Pourtant, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de congés payés, mais ils fournissent toute une aide aux autres, quoi.
Ouais, ça me fait penser, il y a une cantine des Gilets jaunes. C'est genre un lieu où il y a des repas à prix libre et avec ça, ils financent aussi des luttes et des mobilisations. Et je me dis que justement, vu que ça a été créé par les Gilets jaunes, ils ont forcément une réflexion sur le travail par rapport à ça.
Bah ouais, totalement, j'avoue. Mais tu connais comment ?
Bah c'est à côté de chez moi en fait.
Ok.
Et bah, c'est une fois par semaine le mercredi.
Ah bah on peut y aller, hein. C'est demain.
Ouais.
Bah moi je suis pas dispo demain, mais allez-y. Hein.
Bah vas-y, let's go.
Ce mercredi, Blanche et Silouane avaient donné rendez-vous à Peter, à l'Aéry à Montreuil, un espace militant de lutte, d'échange et de mise en commun. Le lieu, géré par des bénévoles, accueille différents projets et notamment la cantine des Gilets jaunes. Elle est née à la suite des manifestations, il y a déjà 5 ans et demi, avec comme volonté de faire durer l'expérience de la cabane des Gilets jaunes de Montreuil, qui a été tenue plusieurs mois sur le rond-point de la Croix de Chavaux. Cette cabane, c'était un lieu de retrouvailles et de rencontres pour les militants et militantes. Tous les mercredis, la cantine propose désormais des repas à prix libre, faits à partir d'invendus récupérés à Rungis. Peter est l'un des fondateurs de cette cantine.
Lorsque l'on pousse la porte de l'Aéry, les militants s'activent. Dans une heure, le lieu ouvre ses portes pour nourrir les habitants du quartier et d'ailleurs. Peter est à l'entrée, nous accueillant dans sa plus belle tenue.
J'ai un tablier gilet jaune.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que la mère de mes enfants a fabriqué des tabliers avec un tissu jaune et donc avec deux bandes réfléchissantes devant qui reproduit le gilet jaune. Bon, en plus de ça, j'ai une pastèque. J'ai une demi-pastèque en décoration, en solidarité avec la Palestine.
On l'a surpris en plein préparatif. On essaie tant bien que mal de mettre la main à la pâte.
Tu veux qu'on t'aide à
Ouais, si tu veux me lire
un truc.
Si tu veux me lire le menu.
Ok.
Là, je suis à petit marron.
Petit marron.
C'est mouliné de courge d'automne, petit marron, entre, voilà. Ouais. Après, c'est radis.
Ok, alors radis, salade et poivron grillé.
Je sens qu'on va encore se régaler.
Une fois le menu bien affiché dehors, mais pas sans quelques déconvenus.
Attention, là,
ça va.
Il prend le temps de discuter avec nous du fonctionnement de la cantine.
Je vais ranger mes feutres et je reviens vers vous.
Okay,
en plus de leur récup hebdomadaire à Rungis, ils cultivent eux-mêmes avec d'autres cantines une partie des ingrédients proposés au menu.
Des pommes de terre, de l'ail, de l'oignon et tout ce qui est cucurbitacé. La soupe que vous allez goûter, elle vient de Combreux, de cet endroit-là. Donc de Montreuil, des gilets jaunes de Montreuil, on doit être 4 ou 3.
Ouais.
Et on y va là-bas, et puis on cultive avec les copains, on est une dizaine, c'est super sympa. Et puis c'est de la récup. Donc le lundi matin, à 6h du matin, il y a 3 personnes qui prennent un camion. On va à Rungis. Quand les copains reviennent, il est à peu près 10h30. Donc il y a une équipe de bénévoles donc, qui réceptionne les cagettes. Nous, on n'a pas les forces pour faire plus qu'un jour par semaine, oui. un midi par semaine. On fait 60 couverts quand même, mm-hmm. Enfin en temps normal. On fait une cantine de lutte une fois par mois. C'est-à-dire que la totalité du bénéfice va à une lutte. Hein. On est beaucoup, beaucoup en lien avec plein de collectifs amis. Et ce qui est génial, c'est qu'on n'a jamais été déficitaire. Depuis 5 ans et demi, on n'a jamais été déficitaire. Donc ça marche.
Moi, ce que je comprends de tout ça, c'est que vous travaillez un max, en fait.
Il faut voir qu'ici, ça nous demande, on va dire, presque 2 jours pleins de boulot.
Ouais.
Tu vois ? Voilà, donc ça mobilise, moi je dirais, au moins une dizaine de personnes sérieuses, quoi. Tu vois ? Ouais. Voilà, tout à fait.
Est-ce qu'avant cette cantine, tu étais aussi dans des activités bénévoles ou c'est vraiment le moment des Gilets jaunes qui t'a poussé à t'engager dans
Non. Moi, je me suis à fond investi sur Montreuil. Au moment où j'ai déménagé, j'habitais Paris. Quand on est venu sur Montreuil, moi et mes gamins scolarisés... à Montreuil. Moi, j'étais prof des écoles. J'ai passé mon diplôme sur le tard, tu vois. Je devais avoir, je sais pas, une trentaine d'années. Et puis, j'étais instite à Montreuil quasiment toute ma carrière, tu vois. Et j'étais déjà investi dans plein de structures, d'associations, etc.
C'est quoi ton rapport au
travail ?
Au travail, au bénévolat même ?
Alors, déjà, le mot bénévolat... Ça m'a toujours un peu embêté. Le mot bénévolat, il est un peu réducteur, mais ça, c'est parce que dans la société actuelle, on l'utilise dans un certain cadre. Donc, en fait, c'est le cadre qui me gêne. C'est pas tant la notion de bénévolat qui m'intéresse. Dans le mot bénévolat, tu dépolitises complètement parce que tu n'inclus pas la dimension. Est-ce que c'est un truc pour une cause ou pour une lutte, etc. Ou est-ce que c'est pour te faire plaisir, tu vois ? Sinon, moi, personnellement, je suis pour un modèle de société, alors par rapport au communalisme, hein, dans lequel il y a plus cette distinction entre travail et bénévolat. C'est-à-dire que, si tu veux, quelque part, le bénévolat, dans une telle société idéale, ce bénévolat, il est socialisé.
Moi, Le thème du travail, ça me travaille beaucoup, hein, parce que moi j'ai souffert, j'ai souffert de l'organisation du travail dans le monde actuel. Tu vois, donc moi-même dans le cadre de mon travail, quand j'étais enseignant, j'étais un militant pédagogique. Hein, donc déjà, militant pédagogique, ça veut dire que tu essayes de transformer le travail par ta façon de faire, puisque la pédagogie, hein, c'est un outil de travail. Et donc, tu essaies déjà de modifier ton environnement. Voilà. Et c'est là que tu es confronté à un système qui est absolument, je dirais, enfermant. Donc, ouais. C'est très compliqué.
Et tu as fini par quitter ça, du coup ?
J'ai fait un burn-out.
Ouais.
Donc, je me suis retrouvé... J'ai été arrêté pendant quelques temps. Puis après, j'étais... sur un poste administratif dans un collège. Et la principale du collège, qui était une nana absolument géniale, Elle m'a proposé de créer un dispositif. Moi, j'avais une idée d'un dispositif d'accompagnement pédagogique de gamins en difficulté. Et donc, j'avais ma salle, mon ordi, mon téléphone et une liberté totale. Et donc, pendant 3-4 ans, je me suis éclaté à faire ce boulot-là. Je recevais des gamins du collège qui étaient en difficulté. Je faisais avec ma façon de faire, etc. Tu vois ? Et puis après, malheureusement, elle est partie. Elle a été remplacée par une nouvelle machin qui m'a mis au placard. Mais le vrai placard. C'est-à-dire, tu arrives à 9h du matin, tu repars à 5h de l'après-midi et il ne s'est rien passé. Et là, c'était une souffrance terrible. Tu vois,
et du coup, là, tu faisais plus rien et tu souffrais non. de l'inactivité. Ouais. Quoi.
Mais ça a duré un an. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il y a eu le confinement. Normalement, je devais être en télétravail. Mais comme ils ne m'envoyaient rien, bah, du coup, c'est comme si j'avais été en retraite plus tôt. Tu vois, 2020. Tu vois, c'était en plein. Ça m'a sauvé. Hein, ouais. Parce que sinon, j'aurais...
Tu travaillais toujours sur tes activités militantes à côté.
Heureusement. Ouais. Mais les gens qui ont toujours une vie très active... à la fois au boulot et à la fois associatif. Et mais en fait, quand on est en retraite, on est encore plus sollicité. C'est-à-dire que moi, tu vois, parce que non, les associations, par exemple, comme il y a de moins en moins de subventions, c'est la catastrophe là. En ce moment, c'est la catastrophe. Donc ils ont besoin vraiment de bénévoles, et en plus des bénévoles, entre guillemets, compétents. Si j'écoutais les gens, moi, je serais 24 heures sur 24. Tu vois.
Faut pas faire de burn-out militant non plus.
Non, justement. Voilà, non, je fais super gaffe. Ouais. Oui. Et puis, alors, il y a un truc très important, c'est que on veut absolument ne pas dissocier l'utile et l'agréable. Moi, j'ai connu, si tu veux, au niveau générationnel, si tu veux. Moi, je suis d'une génération où le militantisme, c'était la mort. C'était vraiment... tu pouvais te... foutre en l'air ton couple ou ta vie de famille ou je sais pas quoi pour la cause, hein, tu vois. Et moi j'ai connu ça. Alors j'ai pas foutu en l'air moi. mais j'ai connu ce type de fonctionnement. Là c'est fini là. Tu vois, donc l'idée c'est d'abord se faire plaisir. Là c'est la cerise. Moi personnellement c'est ça qui me fait vibrer. C'est très gratifiant en fait cette cantine, hein, parce que c'est épuisant, mais c'est très gratifiant. Quelle heure il est là?
Bah, il c'est l'heure. Ah, ça va être l'heure de manger, ouais. De préparer la cantine.
Ouais.
À côté de nous s'assoit Anne. Contrairement à Peter, les Gilets jaunes étaient sa première expérience militante.
Ben alors moi j'étais aux Gilets jaunes, je ne sais pas si les gens t'ont raconté. J'étais à politiser, mais pas tellement. Et un jour en passant à la Croix de Chabot, je vois la cabane. Donc ça devait être l'anniversaire Gilets jaunes, c'est le 16 novembre, c'est ça, 2018. Ouais. Donc c'était plus fin novembre, début décembre. Mais un an après, à peu près, je pense qu'on s'est retrouvés plus ou moins dehors à faire nos AG dehors. Et il y en a une qui a dit, mais non, je connais quelqu'un, c'est un endroit, ça s'appelle l'Aéry. Donc on est venu ici. Et c'est plusieurs jeunes, donc étaient aussi les gens qui connaissaient très bien la cantine des Pyrénées. C'était leur copie. Et elles ont émis ça, je me rappelle, en AG, c'était là, tiens, elle était là. Et moi, j'étais là, ils ont dit, on pourrait mettre en place une cantine dans cet endroit, puisqu'on est le premier collectif, il n'y a rien. Et moi, j'étais là, déjà, j'étais un peu plus politisée, puisqu'il y avait les... J'y mets une cantine, mais j'ai dit, mais qu'est-ce que ça vient faire? Et tout le monde disait, et tout le monde s'est dit à dire, ben non, moi, je ne sais pas faire la cuisine. Un autre qui a dit, ben non, moi, non, je sais pas, on ne comprenait pas. Et alors après, c'est elle qui nous a expliqué ce que c'était vraiment qu'une cantine de lutte, le rôle des cantines, même pendant la commune et ailleurs, comment en même temps c'était solidaire pour les gens du quartier. Il y avait une forme de comme si on s'organisait entre nous. Et en même temps, ça pouvait financer aussi. Bon, il n'y avait pas que ça. Hein. Mais ça pouvait avoir un pas comme ça. Et participer à plein de luttes, de festivals, retrouver d'autres cantines. C'était une façon indirecte. Voilà, de lutter.
Lors du soulèvement populaire de la commune de Paris, entre le 18 mars et le 28 mai 1871, les cantines, le plus souvent organisées par des femmes, ont joué un rôle social et politique essentiel. La commune a ainsi cherché à faire advenir l'une des grandes aspirations du mouvement ouvrier du 19e siècle, l'émancipation des travailleurs et travailleuses par les travailleurs et travailleuses eux-mêmes. Pendant un peu plus de 2 mois, le soulèvement crée des réformes sociales ambitieuses. École laïque, droits des travailleurs, services publics organisés par les quartiers. Pour poursuivre cet idéal, les cantinières distribuaient des repas à très bas prix, parfois gratuitement pour les plus pauvres. Leur mission était simple, que personne ne meure de faim pendant l'insurrection. Ces cantines s'adressaient surtout aux travailleurs sans emploi, aux femmes et aux enfants. Prix solidaire, confiance totale dans les consommateurs et consommatrices, chacun se servait librement et les plus aisés payaient pour ceux qui ne le pouvaient pas. Dans l'esprit communard, ces cantines n'étaient pas de la simple charité, assimilée à de la compassion bourgeoise, mais de véritables services publics, laïcs, financés par la collectivité. Aujourd'hui, la cantine des Gilets jaunes s'inscrit dans cette filiation. Elle reprend cet idéal de solidarité et d'égalité jusque dans son fonctionnement interne. Une organisation sans hiérarchie, fidèle à l'esprit du mouvement.
Donc ce qui est important pour nous, c'est que la façon de cuisiner reflète ce qu'on voulait, bon, je sais pas, comme une perspective, une autre perspective politique ou sociale, ce qu'on voulait mettre en place nous-mêmes. Donc on essaie, si tu veux, dans la cantine, que ça ne soit pas toujours les mêmes. D'abord, qui est plus, qui, tu vois, qui fasse le sale boulot, déjà, qui n'ait pas cette, la division du travail, voilà, c'est élémentaire et tout. Une autre façon de fonctionner, mais bon, à la limite, on fait ce qu'on peut, parce qu'on s'est quand même aperçu, tu vois, en cuisine, que d'abord, il y en a qui sont plus expérimentés. Et puis finalement, la cuisine, est-ce que ça peut se prêter comme ça? Mais il faut quand même qu'il y en ait un, tu vois, qui décide et tout. Bon, alors après, on a vu que ça pouvait tourner, mais est-ce que ça peut vraiment tourner? Bon, enfin, c'est compliqué. C'est pour ça que dans nos AG, on en discute beaucoup de ça.
Enfin, c'est quoi ton rapport aussi au bénévolat? C'est la première fois que tu es bénévole pour toi?
Ben ouais, parce que moi, les Gilets jaunes sont tombés juste au moment où je prenais ma retraite. C'est peut-être pour ça. Bon. Après, ouais, le mot bénévolat, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, finalement. Ça veut dire que c'est comme un travail choisi, finalement, tu peux dire ça comme ça.
Un travail choisi, mais non rémunéré.
Voilà, sûrement.
Parce que tu n'avais pas choisi ton travail précédent?
Ah non. Je ne sais pas dans quelle mesure on choisit son travail.
Tu faisais quoi?
J'étais dans une pharmacie.
Ok.
Salarié, bon, après, dans les laboratoires.
Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette activité?
C'est vrai que déjà, c'est moi qui prends en charge, tu vois, même comme aux Gilets jaunes. La première fois que j'ai vu une AG Gilets jaunes, d'abord, j'attendais, moi, que tu vois, que les gens succèdent à la tribune. Puis tout d'un coup, en sortant, je me suis dit, non, mais c'est pas ça, tu vois, merde. Et moi, j'y vais quand même ouvrir ma bouche à un moment ou à un autre, tu vois, voilà. Alors que quand j'y étais allée, bah, tu vois, je suis pas du tout dans cette optique. Bon, alors après, au début, c'est pas facile, hein. Tu vois, quand t'as jamais pris la parole, surtout à Montreuil, il y a des super militants, là, voilà, le langage politique sur la bourgeoisie, les machins, j'étais... Mais après, voilà, et à la cantine, il y a ça. On est en agi, tu vois, tout le monde prend la parole, je sais pas, t'as comme une petite initiative, tu participes vraiment, ça n'a rien à voir avec le boulot qu'on t'impose, où t'as ni les tenants ni les aboutissants, te dis, fais ci, fais ça, et t'exécutes. Là, oui, comme si tu montais un petit projet, mais pas du tout un projet pour te faire du pognon, tu vois, ou pour... C'est pas du tout pareil. T'es fier dans la mesure où, tu vois, là, t'as l'impression que tu fais quelque chose d'abord pour toi, hein, parce qu'il faut pas non plus se voiler la face, hein, tu fais pas ça pour... Je vais pas être heureux si je vois des gens autour de moi, si ça marche pas, que des gens exploités ou dans la misère et tout. C'est pour toi et pour les autres en même temps, parce que toi, c'est les autres aussi. En plus, t'as des gens de toute génération, tu vois, voilà, je vais avoir 68, 60, qu'est-ce que jamais j'aurais rencontré des gens comme ça. Regarde, Carlos, il vient de Colombie, tu vois, il y a quelqu'un qui a des projets, qui est avec des, je sais pas, de tout. Ouais. Tu vas à Rungis, tu vas à un autre monde, tu vas en permanence.
Ouais.
Ça t'ouvre vraiment la cervelle, hein. Il y en a qui sont pratiquement à la rue ou qui n'ont rien, mais ils sont dans la tête, ils sont 10 fois mieux que les autres, quoi. Je sais pas, là, t'as vraiment, tu vois, d'autres milieux, une découverte vraiment de... Je sais pas, vraiment des gens, quoi. En plus, t'as des jeunes de toute génération. Est-ce que je t'aurais rencontré, toi? Par exemple, tu vois, c'est incroyable.
Voilà, j'ai fait tous les tabliers ici.
Ah, c'est toi qui les as fait.
Voilà. C'est moi qui suis allée acheter les nappes pour remettre un peu du gilet jaune dedans. Là. Voilà. Et donc ça, j'en ai fait. C'est une semaine de travail. Pas un, hein, j'en ai fait plusieurs.
Ouais, c'est vrai.
Bah voilà, c'est des heures.
Il y a plein de choses à
faire.
Ouais. Mais quand il y a des pommes de terre, il faut prévoir. Je sais pas, les gens ils se.
Ah ouais. Non mais c'était bon. Non mais c'est bien.
Normalement, il y en a pour tout le monde.
Ouais.
Là, il n'y en a pas pour tout le monde.
Ben non, la plaque n'a pas eu de pomme de terre ni rien.
Moi, j'ai mangé toute la sauce.
Elle était bonne.
Elle était non, c'est bon. Ouais.
Moi, j'aime bien la sauce de petit rond.
Ouais. Ça, il faut que tu reviennes.
Oui, non, je reviens.
Mais c'est la première fois.
C'est la première fois. Ouais.
Bon, on se l'a dit. À ciao.
Salut. À une prochaine, ouais.
Alors, c'était comment la cantine des Gilets jaunes ?
On avait plus de temps, on aurait plus la possibilité de faire ce genre d'activité. Hein. Parce qu'en vrai, quand tu travailles, une forme classique de travail salarié, malheureusement, tu as moins de temps. Et là, en vrai, ça se voyait un peu, c'était quand même beaucoup de retraités, les personnes qui s'investissaient dans la cantine. Et je me dis, en fait, que peut-être réduire le temps de travail, ça permettrait de plus s'investir là-dedans.
En plus, ça pourrait avoir plein de bienfaits, je pense, écologiques ou en termes de santé mentale. Et même juste d'avoir le temps de faire et d'être autre chose. Son travail, d'avoir d'autres identités.
Cette idée de réduire le temps de travail n'est pas nouvelle. Depuis plus d'un siècle, cette revendication est au cœur de nombreux mouvements sociaux. Et dans les faits, le temps de travail a réellement diminué. Entre 1870 et 1990, on est passé d'environ 3000 heures travaillées par an à moins de 2000 dans les pays du Nord global. En France, ça donne la journée de 8 heures en 1919, la semaine de 40 heures en 1936, puis 39 heures en 1982. En 1996, la loi Robien sur le temps de travail, adoptée sous le gouvernement Juppé, un gouvernement de droite, encourage même les entreprises à réduire la durée du travail en échange d'exonération de cotisations sociales. Certaines d'entre elles descendent alors jusqu'à 32 heures, réparties sur 4 jours, une dynamique qui sera finalement délaissée après l'adoption des 35 heures en 1998. À chaque réduction du temps de travail, on observe des effets similaires, une productivité qui reste stable, parfois même un peu plus élevée, une baisse de la fatigue, moins d'arrêts maladie et une meilleure santé globale.
Il y avait des gens qui expliquaient que les 35 heures, c'était encore trop, qu'il fallait les 32. Et pourquoi pas les 28 pendant qu'on y est ? Le problème est très simple. L'homme est fait pour deux choses. Pour aimer et pour travailler. Il faut aimer travailler.
Dès 1880, Paul Lafargue, gendre de Karl Marx, publie Le droit à la paresse pour dénoncer la sacralisation du travail, à une époque où certains ouvriers peuvent encore travailler près de 80 heures par semaine. Plus tard, Bertrand Russell ou l'économiste John Maynard Keynes défendent eux aussi l'idée qu'on devrait travailler moins, mais pour des raisons économiques. En 1930, Keynes imagine que dans 100 ans, donc aujourd'hui, l'augmentation de la productivité et de la richesse aurait même permis de travailler 3 heures par jour. La richesse a bien augmenté, comme il l'avait prévu, mais pas la semaine de 15 heures. Pourquoi ? Parce que tout a augmenté en même temps, la population, mais aussi et surtout la consommation. Les gains de productivité ont été utilisés pour produire toujours plus, plutôt que pour réduire le temps de travail.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien ?
Oui, ça va. Alors, vous m'entendez ?
Ouais, très bien.
Elle, c'est Julia Posca, sociologue québécoise à l'IRIS, l'Institut de Recherche et d'Information Socio-Économique.
Merci beaucoup d'accepter de répondre à nos quelques questions.
On l'a contactée parce qu'en fouillant sur Internet, on est tombé sur son dernier livre publié en 2024. Son titre nous a tout de suite intrigués. Travailler moins ne suffit pas.
De simplement dire on va réduire le temps de travail, ben, sans remettre en question le productivisme, l'exploitation infinie des ressources naturelles, on voit bien que ça peut que régler des problèmes à la marge. Et c'est pas suffisant donc pour rendre les emplois utiles, socialement viables sur le plan écologique et donc pour qu'ils retrouvent justement un sens pour ceux et celles qui les occupent. Là.
Bonjour, je m'appelle Marc S. et j'ai accepté de mon plein gré d'avoir recours à une opération de dissociation. Je consens à séparer les souvenirs de ma vie professionnelle de ceux de ma vie personnelle.
La série à succès Severance, sortie en 2020, nous invite à questionner notre rapport au travail.
C'est un peu une espèce de métaphore de l'aliénation au travail, hein, finalement. Donc, le fait qu'on les salariés soient tellement détachés de l'objet de leur travail, de ses finalités. Puis ça, c'est un effet d'une division du travail à outrance. Du niveau d'automatisation aussi très, très élevé qui fait que, voilà, on est complètement aliéné de l'objet de notre travail et on perd de vue sa finalité. Cette série-là, le Severance, elle vient illustrer ce fait-là fondamental. Tout le discours sur le travail, puis les problèmes vécus au travail, puis les solutions qui sont proposées sont souvent, c'est ça, vues du point de vue finalement des individus, puis de leurs insatisfactions, mais ça et donc des choix différents qu'ils pourraient faire pour finalement être plus épanouis au travail, puis on fait l'impasse sur sur l'organisation économique, puis l'organisation capitaliste, et on fait l'impasse aussi sur la dimension finalement collective du travail, le fait que c'est un enjeu collectif et un enjeu qui est politique.
Ce qu'elle propose, c'est un modèle post-capitaliste qui repose sur trois grands axes de transformation. D'abord, démocratiser les entreprises. C'est-à-dire que les travailleurs et les consommateurs participent réellement aux décisions, parce qu'on ne peut pas compter sur les entreprises pour produire spontanément, de manière utile ou responsable. Le deuxième axe, c'est l'encadrement de la production, c'est-à-dire fixer des règles strictes sur la manière de produire pour garantir des emplois dignes et ne pas épuiser les ressources. Enfin, le dernier axe de ce modèle, c'est de transformer notre rapport à la consommation. Ce changement découle déjà de l'encadrement de la production, car en produisant moins et mieux, notre besoin de consommer diminue. L'idée, à terme, est aussi de développer une économie basée sur le partage, pour éviter que chacun ait besoin de posséder tous les objets du quotidien. Mais pour elle, la question centrale reste celle du pouvoir. Et c'est pour ça que la démocratisation de l'économie est l'enjeu le plus important.
Il faut s'en saisir de manière collective pour le transformer en profondeur et ça demande donc de faire des choix politiques différents et de ramener de la démocratie dans le monde du travail et plus largement, oui, dans l'économie. On est dans des sociétés qui, sur le plan économique, sont très peu démocratiques où les travailleurs et les travailleuses ont peu d'emprise sur ce qu'ils font. Et c'est seulement si on s'attaque à cette question-là qu'on va pouvoir transformer davantage le travail.
Dans le monde qu'imagine Julia Posca, peut-être qu'on ne travaillera pas moins, mais on répondrait à nos besoins et les travailleurs et travailleuses se sentiraient valorisés parce qu'ils sont autonomes, prennent des décisions et ne participent pas à détruire la planète. Au fil de nos rencontres, une chose est devenue évidente. Le travail, tel qu'on l'entend aujourd'hui, n'est pas une réalité fixe. C'est une construction historique, sociale et politique qui invisibilise un grand nombre d'activités. Le soin, l'entraide, le bénévolat. Alors, comment transformer le travail? Il s'agirait de rediscuter collectivement de ce qu'on considère comme utile, de ce qu'on veut produire et de qui décide. Ramener de la démocratie dans nos activités, du pouvoir, du sens et de la responsabilité écologique. Certains le font déjà, dans les coopératives, par exemple, où les salariés décident ensemble. D'autres vont encore plus loin, en inventant des modes d'organisation autogérés en dehors du salariat. Dans le prochain épisode, on part justement explorer ces formes qui réinventent le travail, celles qui s'organisent autrement et celles qui partagent le pouvoir, et qui montrent qu'une autre manière de s'organiser est déjà en train d'exister. Les Nouveaux Sauvages est un podcast produit tous les deux mois par Radio Campus Paris. Vous pouvez l'écouter sur son site, radiocampusparis.org, ou sur vos plateformes d'écoute préférées. Suivez-nous sur Instagram, @nouveausauvagespodcast, tout attaché. Commentez, partagez et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles pour nous soutenir.